Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 4 janvier 2019, en direct de Washington, Jean-Roger Billon
et Michel Joseph.
On commence par les titres.
Élection en RDC, les évêques affirment connaître le vainqueur et demandent la vérité aux autorités. Washington exige de respecter le choix des Congolais en publiant les résultats exacts.
La Somalie interdit à l'ONU d'interférer dans ses affaires. L'avertissement intervient après l'expulsion d'un émissaire onusien de Mogadiscio.
L'ONU plaide pour des réfugiés syriens bloqués au sud de l'Algérie, âgés indexés, évoquent des problèmes de sécurité.
Ici aux États-Unis, Nancy Pelosi est redevenue jeudi la présidente de la Chambre des représentants, a invité Donald Trump à prononcer le traditionnel discours sur l'état de l'Union devant le Congrès au complet. Ce sera le 29 janvier prochain.
Ne manquez pas notre passeport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies va se réunir aujourd'hui sur les élections en République démocratique du Congo. La réunion à huis clos va se tenir à la demande de la France, alors que l'on attend les résultats du scrutin de dimanche dernier. Une autre réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la RDC, qui devrait cette fois être publique, se tiendra mardi.
Pendant ce temps, l'Église catholique a repris jeudi son rôle de contre-pouvoir en affirmant connaître le nom du vainqueur de l'élection présidentielle. La conférence épiscopale a notamment demandé à la CENI de proclamer les résultats dans le respect de la vérité et de la justice. Les détails avec Eddy Sangou.
La conférence épiscopale congolaise assure que les données à sa disposition consacrent les choix d'un candidat comme président de la République sans citer les noms. L'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, souligne que les irrégularités observées n'ont pas pu entamer les choix que le peuple congolais a clairement exprimés dans les urnes. Il appelle donc la CENI à publier les résultats dans le respect de la vérité et de la justice. Auparavant, le président de la mission d'observation de l'Union africaine, Diankunda Traoré, ancien président malien, avait aussi demandé à deux reprises que les futurs résultats soient conformes à la volonté des électeurs. Arrêtez de nous intimider, arrêtez d'essayer d'influencer la décision de la CENI, leur a répondu Corneille Nangaa, président de la CENI. Il dit faire de son mieux pour que les résultats soit publié le 6 janvier, mais précise que si on n'y arrive pas, à l'impossible, nul n'est tenu. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, rappelle que seule la CENI est habilitée à annoncer et publier les résultats des votes. Le pouvoir se dit serein et l'opposition prévient qu'elle ne se laissera pas ravir la victoire.
Les États-Unis ont aussi appelé jeudi les autorités électorales de RDC à respecter le choix des Congolais en publiant des résultats exacts avec des menaces de sanctions. Ce qui sape le processus électoral menace la paix, la sécurité ou la stabilité de la RDC ou bénéficie de la corruption, risque de ne plus être les bienvenus aux États-Unis ou d'être interdit d'accès au système financier américain, a prévenu le département d'État américain. Et Washington a également appelé au rétablissement d'Internet coupé depuis lundi.
L'ancien ministre mozambicain des Finances, Manuel Chang, a été inculpé jeudi à New York pour avoir garanti au nom de son pays 2 milliards de dollars d'emprunts en échange de pots de vin, opération qui a fait basculer son pays dans une grave crise financière. Interpellé samedi en Afrique du Sud, M. Chang, âgé de 63 ans, est actuellement en détention provisoire dans l'attente de l'examen d'une demande d'extradition présentée par les autorités américaines. Plusieurs donateurs majeurs, dont le Fonds monétaire International FMI, ont suspendu leur aide au Mozambique après la reconnaissance de ses emprunts.
La Somalie a dit jeudi au Conseil de sécurité de l'ONU de ne pas interférer dans ses affaires, après avoir expulsé un émissaire onusien qui a interrogé la décision du gouvernement de Mogadiscio d'arrêter un ancien Chebab, candidat à une élection régionale. L'ambassadeur de Somalie, Aboubakar Dahir Osman, n'a pas spécifiquement mentionné l'expulsion de Nicolas Haysom, mais a fait savoir que son pays avait besoin de l'appui et non des critiques de l'organisme.
L'ONU et ses représentants ont le devoir et même l'obligation de respecter leur mandat et de ne pas interférer dans nos affaires intérieures et de laisser les Somaliens en charge de leur propre destin, a dit l'ambassadeur. Le diplomate somalien a aussi déclaré que les anciens Chebab ne pouvaient pas assumer de poste à responsabilité sans passer par des programmes stricts et établis de réhabilitation.
Les Nations Unies s'inquiètent du sort de ressortissants syriens bloqués à la frontière sud de l'Algérie. Les précisions de Lionel Gahima.
Hassan Kassimi, directeur de la migration au ministère algérien de l'Intérieur, a fait savoir que ces personnes arrivées par voie terrestre dans le sud du pays sont des miliciens défaits dans la guerre syrienne et constituent de ce fait une menace sécuritaire. Le Haut Commissariat de l'ONU assure, de son côté, que certains des Syriens sont des réfugiés reconnus. Selon des informations fournies à l'agence onusienne, 20 membres du groupe sont bloqués dans le désert près du poste frontalier de Guezam et on est sans nouvelles d'une centaine d'autres qui avaient été amenés à la frontière algérienne. Le HCR a appelé les autorités algériennes à permettre l'accès de ces personnes pour identifier celles nécessitant une protection internationale. Une centaine de Syriens ont été interceptés dans le sud du pays et expulsés d'après le responsable de la migration au ministère algérien de l'Intérieur, ajoutant que ces personnes avaient transité par la Turquie, la Jordanie, l'Égypte, le Soudan et le Niger ou le Mali à l'aide de faux passeports soudanais. Au cours des récentes années, l'Algérie a accepté environ 50 000 Syriens sur des bases humanitaires, a précisé Hassan Kassimi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Politique américaine, rentrée parlementaire hier du 116e congrès, la Chambre des représentants est désormais contrôlée par les démocrates et le Sénat reste sous contrôle républicain. La démocrate Nancy Pelosi a fait son retour historique au perchoir qui marque le début d'une nouvelle ère d'opposition au président républicain Donald Trump. Eric Manirakiza.
À 78 ans, Nancy Pelosi est la première et deuxième femme de l'histoire américaine à diriger la Chambre des représentants. Avec son contrôle, les démocrates décrochent en effet la tête de commissions parlementaires dotées de puissants pouvoirs d'investigation, notamment ceux d'assigner les témoins à comparaître et d'ordonner la présentation de documents. Ils ont d'ailleurs promis d'exiger du président Trump qu'il présente enfin ses déclarations d'impôts. Dans son discours inaugural, Mme Pelosi a appelé au respect des désaccords et de la vérité dans une Amérique divisée. Elle a aussi donné le ton sur son agenda législatif. D'abord, protéger la classe moyenne et les Dreamers arrivés sans papier aux États-Unis lorsqu'ils étaient mineurs. Sur l'environnement, Nancy Pelosi a promis d'adresser la crise climatique qu'elle a qualifiée de menace existentielle de notre époque. Déjà hier, dès la fin de journée, elle a soumis à un vote des mesures budgétaires temporaires pour débloquer les administrations américaines partiellement paralysée depuis le 22 décembre. La Maison-Blanche a par avance rejeté ses projets de loi qui n'incluent pas 5 milliards de dollars pour financer le mur voulu par le président Donald Trump à la frontière avec le Mexique afin de lutter contre l'immigration clandestine. Au 13e jour du shutdown, il reste ainsi difficile d'entrevoir une sortie de crise.
Nancy Pelosi est devenue donc jeudi la présidente de la Chambre des représentants, a aussi été invitée. Le président des États-Unis, Donald Trump, a prononcé le traditionnel discours sur l'état de l'Union devant le Congrès au complet. Ce sera le 29 janvier prochain. La tradition veut que ce soit le leader de la Chambre basse américaine qui invite le président à ce discours annuel devant la Chambre des représentants et le Sénat réunis. Le discours de l'état de l'Union est un exercice obligé pour le président qui lui permet d'expliquer au peuple américain et à ses élus ses priorités pour l'année qui commence. Le ministère chinois du commerce a confirmé aujourd'hui que des négociateurs des États-Unis se rendraient en Chine lundi et mardi pour le premier tête-à-tête entre les deux puissances depuis que les chefs d'État des deux pays se sont rencontrés début décembre pour tenter d'apaiser leurs différends commerciaux. Le représentant adjoint pour le commerce, Jeffrey Gerrish, conduira la délégation américaine en vue de mener une discussion active et constructive. Les deux délégations s'efforceront de mettre en œuvre l'important consensus obtenu lors de la rencontre en Argentine entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, a annoncé dans un communiqué le ministère chinois du commerce.
L'émissaire onusien pour le Yémen, Martin Griffiths, a prévu de nouvelles négociations dans les prochains jours avec les rebelles houthis et le gouvernement yéménite soutenu par l'Arabie saoudite. Tandis que le cessez-le-feu de Hodeidah résiste selon l'ONU, l'ONU espère réunir toutes les parties d'ici la fin du mois de janvier. peut-être au Koweït, pour un suivi des avancées obtenues lors des pourparlers à Stockholm en décembre.
Les consultations inter-yéménites en Suède ont notamment permis d'aboutir à un cessez-le-feu entré en vigueur le 18 décembre et à la décision d'un retrait des combattants de la ville de Hodeïda et de son port, crucial pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Et maintenant, la minute écho avec Nani Talani.
Au Burkina Faso, au Rabin, qui s'engage dans un programme de financement de 5 milliards de francs CFA en faveur des petites et moyennes entreprises des secteurs du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Pour y parvenir, cette structure a récemment signé une convention avec l'Agence de financement et de promotion des PME. Ce partenariat permet aux entreprises qui le souhaitent de se manifester et remplir les conditions pour le dépôt de leur dossier de crédit. Au Sénégal, la production énergétique a doublé au cours des 6 dernières années, passant de 500 MW en 2012 à 1141 MW en 2018. En outre, 3000 km de lignes de transport électrique ont été installées pour moderniser et multiplier le réseau électrique national, permettant de diminuer les délestages. Les heures cumulées de coupures sont passées de 950 heures en 2011 à 24 heures en 2018. En plus, 2329 villages supplémentaires ont été électrifiés depuis 2012. Terminons avec Apple qui estime désormais à 185 millions le nombre d'iPhones qui seraient vendus en 2019. Ce résultat présente un recul de 10% par rapport à la précédente révision que les analystes avaient déjà révisée en baisse il y a 2 semaines. L'ampleur de cet avertissement suggère que la marque évolue en territoire inconnu, même s'il faut attendre plus de clarté sur les perspectives du groupe.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Jean-Roger, bonjour à tous.
Amir Abdou rempile avec les Comores.
Oui, le sélectionneur emblématique de Kouilankant était arrivé en fin de contrat le mois dernier et un accord pour prolonger s'annonçait difficile en raison du manque de moyens mis en avant par la Fédération comorienne. Mais les deux parties sont finalement parvenues à un accord et l'instance a annoncé la prolongation du technicien pour une durée allant de 6 à 24 mois. Amir Abdou sera donc bien sur le banc en mars prochain pour le déplacement décisif au Cameroun lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 avec une possible qualification en cas de victoire.
Boussoufa rebondit en Arabie Saoudite.
Libre depuis la fin de son contrat avec Al Jazeera aux Émirats Arabes Unis l'été dernier, l'international marocain de 34 ans s'est engagé pour 6 mois avec le Al Shabab FC, actuellement 3e du championnat d'Arabie Saoudite. Boussoufa évolue dans le golfe depuis l'été 2016.
Coup dur pour Malango et le TP Mazembe.
Déjà victime d'une entorse à la cheville en fin d'année 2018, l'attaquant du TP Mazembe Malango commence 2019 à l'infirmerie. Cette fois, l'international congolais souffre d'une fracture au pied droit et son état nécessite un minimum de 3 à 6 semaines de soins avant de réévaluer la nécessité d'un autre traitement, d'après Jean-Michel Kazadi, médecin du club de Lubumbashi. Ben Malango risque donc de rater les 2 ou 3 premières journées de la phase de groupe de la Ligue des Champions.
Tollé autour de la Supercoupe d'Italie.
Et oui, l'organisation de la Supercoupe Italiana en Arabie Saoudite, où les femmes non accompagnées seront interdites de stade, a provoqué un véritable tollé, y compris de la part du gouvernement. La Ligue de football italienne a publié les conditions de vente des billets de cette finale de la Supercoupe d'Italie entre la Juventus Turin et le Milan AC prévu à Jeddah le 16 janvier. Les supportrices italiennes ont alors eu la surprise de constater qu'elles ne pourraient assister au match que dans les tribunes spécifiques réservées aux familles et donc en présence d'un homme. La gauche italienne a demandé l'intervention de la Fédération de football. NBA, pour finir avec vous Jean-Roger, les résultats de la nuit dernière.
Eh bien Yacouba, San Antonio a battu Toronto 125 à 107 et Denver a disposé de Sacramento 117 à 113.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vendredi 4 janvier 2019, de nouveau avec vous, Jean-Roger Villon. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le président de la commission électorale a évoqué des lenteurs dans le dépouillement des bulletins de vote, une situation qui pourrait, d'après M. Corneille Nanga, compromettre la proclamation des résultats provisoires initialement prévus dimanche. À Bukavu, par exemple, dans le sud Kivu, c'est seulement hier jeudi que le centre local de compilation des résultats pour la circonscription a ouvert ses portes. Pour espérer être dans les délais, le secrétaire exécutif provincial de la CENI au sud qui voit inviter ceux qui y travaillent à la probité et à l'assiduité. Notre correspondant dans la région, Ernest Mouero, a fait le point.
C'est au siège provincial de la CENI à Bukavu qu'est installé ce centre local de compilation des résultats, un vrai bazar avec des plis de votes disposés dans tous les sens. Des hommes et femmes s'emploient à arranger les colis pour la centralisation, la numérotation et les traitements bureau après bureau de ces plis. Lors d'un point de presse, le responsable local de la CENI au sud Kivu, Godens Maeshe, a insisté sur le fait que tout doit se faire en toute transparence devant des témoins, des journalistes et observateurs accrédités. À cette fin.
Que personne ne vous trompe qu'il va ajouter des voix à un candidat, qu'on lui amène une vache ou une chèvre. Le candidat sera exploité inutilement. Il va creuser sa poche et il n'aura aucune voix d'ajouter. Les membres de ce bureau sont au nombre de 40. Il n'y a pas moyen qu'une information quitte le centre local sans que tous n'aient donné leurs avis.
Au sujet des bulletins déclarés trouvés à Tidao en territoire de Walungu, Godens Maeshe présente à la presse le chef de Cartine à Lukemba de Okurasa comme témoin d'une autre version. Ces derniers cassent en brèche la version de Walungu et expliquent qu'un seul sac du matériel de vote est tombé en pleine ville de Bukavu, non loin du centre de vote.
C'était vers 19h30. Le camion venait du collège Al-Fadjil, arrivé en face de l'hôpital Medicure. Un sac est tombé. C'est ainsi que nous sommes allés vite pour bloquer les policiers avec les cabots pour qu'ils puissent rentrer, récupérer les sacs. Au retour avec les policiers, nous avons rencontré sur place qu'un minibus vanette avait déjà récupéré les sacs.
Le responsable de la CENI, Godens Maeshe, invite les parties prenantes à faire confiance à la CENI et surtout à s'approprier le processus électoral au lieu de le discréditer.
Un feuilleton qui a mis en place 1001 hypothèses. Laissons tomber toutes ces hypothèses-là. Ceux qui ont obtenu le résultat, personne n'y touchera. Dire qu'on a retrouvé le matériel à Chidao ou n'importe où, ce n'est pas ce qui intéresse. Mais le matériel trouvé n'importe où, qu'on nous l'amène, c'est seulement là qu'il peut être traité.
Pour l'heure, toute l'attention est tournée vers le centre local de compilation des résultats, dont le travail final sera envoyé, entre autres, au siège de la CENI à Kinshasa. De Bukavu, Ernest Mouero, VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Bukavu sur 97.4 FM.
Les consommateurs camerounais sont inquiets au sujet d'un prétendu riz en plastique commercialisé sur le marché local. Le gouvernement a convoqué la société dont les deux marques de riz sont mises en cause à la suite d'une vidéo devenue virale dans laquelle le riz de marque Broly et Amanti était présenté comme contenant des particules de plastique. La société importatrice de ces deux marques au Cameroun parle d'une campagne de sabotage. Le point à Yaoundé avec notre correspondant Emmanuel Jules.
Deux heures de réunion au ministère du Commerce à Yaoundé pour établir la vérité sur le buzz de ces derniers jours au Cameroun. La présence du riz en plastique importé sous les rayons et dans les marchés. Dans le rôle de modérateur, le ministre du Commerce, Luc Magloire-Mbarga à Tangana.
Il s'agit d'une réunion vérité afin que l'opinion et les consommateurs soient pleinement et dûment informés. Tout sera dit là, sans tabou.
Présent dans la salle, l'air quelque peu débité, les responsables d'Africa Food Distribution, importateurs du riz de marque Broly et Armanti, au centre de la controverse. Évariste Elé, directeur général de Africa Food Distribution.
Nous ne comprenons pas pourquoi. Nous sommes la cible d'une machination regrettable face à une affaire, une cabale qui est à portée internationale et qui est finalement arrivée dans notre pays.
À la suite du président directeur général d'Africa Food Distribution, trois de ses collaborateurs vont tour à tour présenter au public les documents attestant de la conformité des deux marques de riz soupçonnées d'être en plastique. L'importateur annonce une action en justice contre ses détracteurs. Gisèle Nyamba, directrice marketing et commerciale de Africa Food Distribution.
Parce que nous sommes dans un pays de droit, nous allons porter plainte pour que les contrevenants répondent de leurs actes.
Vous avez clairement identifié ?
Oui, à travers les réseaux sociaux où ils ont actionné à visage découvert.
Au terme de la concertation, les deux marques de riz ont été maintenues sur le marché sur décision du ministre du Commerce, Luc Magloire-Mbarga, à Tangana.
En l'état, il n'y a aucun élément objectif qui puisse nous amener à penser que le riz incriminé est un faux riz. Nous voulons dire que le riz incriminé nous apparaît propre à la consommation humaine.
Des assurances qui sont loin de convaincre certains Camerounais rencontrés dans les rues de Yaoundé.
Parce que déjà au Cameroun, dès qu'il y a une information, déjà on la prend d'abord de prime abord. Comme si c'était une histoire vraie déjà.
J'ai eu vraiment peur et envie de manger le riz parce que c'est vraiment... Je n'ai même pas encore vu, j'ai vu ça sur vidéo, mais j'aimerais voir ça en face pour bien croire.
Les associations des consommateurs exhortent pour leur part les Camerounais à rester vigilants. En 2015, une cargaison de près de 10 000 tonnes de riz impropre à la consommation avait été repérée et saisie au port autonome de Douala. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Les violences intercommunautaires du 1er janvier 2019 à Yergou, dans le centre-nord du Burkina Faso, ont fait au moins 48 morts, selon un témoin anonyme joint par VOA Afrique. Ce témoin, qui a requis l'anonymat, a rejeté le bilan de 16 morts avancé mercredi par les autorités.
Quand je suis arrivé en premier lieu, j'ai vu effectivement qu'ils étaient en train de brûler les maisons de pôle. Et dès lors qu'ils arrivent dans les maisons de pôle, c'est directement s'il y a un garçon, on le tue, on le garde sur toi. Il y a certaines, on les tabasse avec des bouquins. Il y a certaines, on les égare directement. Et les images que je viens de vous donner, la police vient de témoigner que toute leur famille, que ce soit garçon, à partir des 12 à 13 ans, on les a tués devant eux. La dame était en train de tirer et puis aller jeter au niveau du bas-fond. Alors, maintenant, on cherchait à voir effectivement où sont les corps. Mais les conditions viennent de l'ONU et puis les forces de défense, c'est-à-dire la gendarmerie et puis la CRS. Présentement, où l'on de vous parle, je suis venu voir le monsieur le maire de la commune de Barsalon.
Oui.
La gendarmerie est en train de compter le nombre de décès par village.
Alors que hier, le gouvernement avait déjà dit qu'il y a 14 morts. Est-ce que ce serait plus?
Ce que le gouvernement a donné, c'est faux. Ce n'est pas le nombre exact. Moi-même, le premier quand j'étais là-bas, j'ai compté plus de 48. Et il y avait des points que je ne suis pas parti.
Pour les gens qui n'ont pas été là-bas, on a un bilan de 16 morts au total donné par le gouvernement. Vous vous dites 48. Oui. Comment vous avez pu compter ces corps-là? Expliquez-nous.
En fait, quand j'étais là-bas, je me suis présenté avec un collègue. J'avais moi ma carte. Et au fur et à mesure, vu que vous voyez les professeurs de peul là, ne sont pas regroupés comme les motifs. Il faut aller par là, par ceci, par là. Et là où j'arrive, s'il y a un jeune, s'il y a un vieux, s'il y a un, par exemple, les peuls qui ont des motifs, c'est-à-dire on les abat directement, on les abat. Il y a deux qui sont égarés. En tout cas, on a entendu qu'il y a un groupe qui quitte Soum pour rejoindre effectivement le village de Mourou, un groupe de djihadistes et puis de Soum. C'est là que lui a dit, il a fait le déposer parce qu'effectivement, je ne peux pas les suivre. Parce que moi, je n'ai pas de contre-balles.
Est-ce que tous les peuls sont partis?
Oui, il y a même plus de peuls garçons dans le village, là, sauf les femmes et les enfants. Mais maintenant, monsieur le maire de Barsalogo.
Vous parlez de Elhadj Abdoulaye Pafadnam, le maire de la commune de Barsalogo.
Oui.
Mercredi soir, lui aussi, il parlait de 13 morts.
Non. Les autorités, personne n'a arrêté le lieu. Donc, c'est par téléphone. Il faut aller sur les lieux pour comprendre.
Un témoin des violences dans le centre nord du Burkina Faso, il a été joint par Bagassi Koura.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Ici aux États-Unis, la démocrate Nancy Pelosi a repris jeudi la tête de la Chambre des représentants dans une Amérique divisée. Nous ne nous faisons pas d'illusions, notre travail ne sera pas facile, a-t-elle déclaré après avoir repris le marteau de speaker qu'elle avait déjà tenu entre 2007 et 2011 lorsqu'elle était devenue la première femme de l'histoire américaine à accéder à ce poste de troisième personnalité des États-Unis. Idriss Fall a recueilli la réaction de Marilyn Suffolk, elle est professeure à l'université Howard, ici même à Washington.
Mais ça signifie une très grande victoire pour les femmes, parce que cela fait 58 ans qu'on n'avait pas eu un président de la Chambre qui soit élu deux fois de suite. Donc ça, en soi-même, c'est une grande victoire.
Le chemin qui reste à parcourir va être très long, parce que ça annonce aussi des batailles féroces avec les républicains, non?
Oui, cela annonce des batailles féroces, mais il faut se rappeler que Nancy Pelosi n'est pas toute seule. C'est la première fois que le Congrès et le Sénat atteignent tel nombre de femmes au Sénat, non seulement de femmes, mais de femmes démocrates et très progressives dans leur programme. Elles sont au nombre de 114, alors qu'auparavant, elles n'avaient jamais atteint plus de 84. Et leur programme, c'est un programme qui est centré sur la justice sociale.
Justement, la présence des femmes, vous pensez que ça va influer sur ce nouveau congrès?
Absolument, cela va influer sur le nouveau congrès. C'est la première fois que le congrès est vraiment à l'image des États-Unis. C'est-à-dire un congrès où toutes les minorités sont représentées. Ainsi, c'est la première fois qu'il y a que deux femmes d'origine amérindienne sont élus dans le Minnesota. Et ça, c'est extrêmement important. C'est la première fois aussi que vous avez, par exemple, des femmes qui sont issues de l'immigration, qui sont élues. Michigan, vous avez Rashida Tlaib, qui est née, pardon, à Détroit, mais elle est de parents palestiniens. Dans le Minnesota, vous avez Ilhan Omar, qui est arrivée aux États-Unis à l'âge de 14 ans, et elle venait de la Somalie, du musulmane, en la personne de ces deux personnes que je viens de citer.
Maintenant, le premier blocage, c'est le mur et le shutdown que nous vivons. Est-ce que vous pensez que ça va changer de sitôt?
Oui, je pense que là encore, il y aura la pression non seulement du Congrès, mais la pression aussi du public en général, qui est toujours prêt à descendre dans les rues pour justement qu'il y ait ce changement de mentalité, qu'il ne s'agit pas d'ériger des murs, alors qu'il y a des années, auparavant, le président Reagan avait dit « Mr. Gorbachev, tear down that wall », casser ce mur en parlant du mur de Berlin. Donc, alors qu'auparavant, on essayait de casser les murs, maintenant on essaie d'ériger des murs. Et donc, vous avez un public américain qui est contre la mise en place de ce mur.
Est-ce que Donald Trump aura une marge de manœuvre ou bien on va revivre un remake du second mandat de Barack Obama, ne pas pouvoir vraiment gouverner?
Je pense que ce sera beaucoup plus difficile pour le président Trump de mettre en place le programme qu'il avait promis, c'est-à-dire un mur payé par les Mexicains. Les Mexicains n'entendent pas du tout payer ce mur, les Américains non plus, donc vous voyez un petit peu quel peut être le résultat.
Marilyn Suffolk, professeure à l'université Howard, ici même à Washington. Le Monde aujourd'hui, ce sera tout pour cette édition de ce vendredi 4 janvier 2019. Merci de l'avoir suivi. Jimmy Cook à la console, Michel Joseph pour la réalisation et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction, Jean-Roger Billon à ce micro. Nous émettons de Washington. Bonne journée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.